Que le nom du Seigneur soit béni. Nous avons l'habitude de rappeler que lorsque deux ou trois de ses enfants sont assemblés, le Seigneur est parmi nous. Pourquoi ? Pourquoi le Seigneur est au milieu de nous ? Pour nous épier, pour nous bénir. Pourquoi ? Parce que nous avons besoin de la bénédiction du Seigneur. Et lui, il le sait mieux que nous. Vous vous dites, oh oui, j'ai besoin d'être béni. C'est vrai ce qu'il dit, ce pasteur. Mais nous sommes loin de nous imaginer comment Dieu pourrait vraiment nous bénir si nous écoutions, comme nous venons de le chanter, sa voix. Nous allons poursuivre ce que nous avons vu ce matin. Pour cela, nous allons aller dans le livre de l'Apocalypse. Lorsque le Seigneur Jésus s'adresse à une église qui s'est attiédie. Elle s'est attiédie, elle ne le sait pas. Ça représente les chrétiens qui vivent dans l'illusion. Ils pensent qu'ils vont bien, mais ils ne le vont pas. Et Dieu le sait. Est-ce que ça peut nous arriver de nous tromper ? Ben oui, ça peut nous arriver, bien sûr. La Bible dit, ne vous trompez pas vous-même par de faux raisonnements. On peut s'illusionner. C'est repris plusieurs fois dans la Bible qu'on peut s'illusionner. C'est ça, l'évangile de l'illusion. Alors, dans cette église à Laodicée, Apocalypse chapitre 3, verset 20, le Seigneur leur a donné une série d'exhortations et il termine avec une invitation. Une invitation, pourquoi ? Et pour que le feu de Dieu revienne dans le cœur de ces chrétiens. Peut-être que vous aspirez à ce que votre cœur soit embrasé de feu pour le Seigneur. Il y a quelqu'un qui voudrait que son cœur brûle vraiment pour le Seigneur ? Hein ? Que son cœur brûle afin que ce feu se déverse sur les autres. Est-ce que ce n'est pas le plan de Dieu ? Oui. Et pour cela, Dieu va nous aider. D'ailleurs, au verset 19, il dit, « Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. » Lorsque le Seigneur nous reprend, c'est parce qu'il nous aime. Alors, regardez ce qu'il fait. Verset 20. « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Alors le Seigneur donne une invitation, il se propose de venir dans notre maison, c'est-à-dire dans notre cœur, pour nous nourrir et pour nous rassasier. Il le dit, si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte. Ce matin, nous avons parlé des deux disciples sur le chemin d'Emmaüs qui, le jour même de la résurrection, s'éloignaient de Jérusalem. Alors que Jésus avait dit, vous resterez à Jérusalem. Eux, ils ont vite compris. Le jour même, ils s'en éloignaient déjà. C'est terrible, hein ? Vous voyez, le jour même où le Seigneur avait dit, écoutez, vous restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez baptisés du Saint-Esprit, eux, ils n'avaient pas trouvé le moyen, le jour même, déjà, de s'en éloigner. Le Seigneur, lui qui nous aime, va les rejoindre. Ils ne le reconnaissent pas, ils ne se rendent pas compte qu'ils ont affaire au Seigneur de l'univers. Bien sûr, pour eux, le Seigneur était mort, injustement, inutilement, ils étaient là complètement dépités. Et le Seigneur les rejoint, il parle avec eux, il les exhorte, et leur cœur va recommencer à bouillonner. C'est bien ? C'est bien. Et ils vont faire ce que nous venons de lire. Au moment où Jésus paraissait vouloir aller plus loin, ils vont l'inviter dans leur maison. Ils viennent de vivre quelque chose. Ces deux heures, certainement, peut-être Jésus les a rejoints, ils avaient déjà fait un bout de chemin. Mais ils ont passé peut-être une heure et quart, une heure et demie en présence de Jésus, ne savent pas que c'est lui, leurs yeux sont fermés, leur esprit est fermé, mais quand même, les paroles de Jésus les ont réchauffés. Et ils vont faire quelque chose d'extraordinaire, ils vont dire à Jésus, reste avec nous, parce que Jésus ne s'est pas imposé. Et pour ceux qui découvrent l'évangile, c'est quand même bien de lire cette partie qui nous intéresse, à savoir que c'est à nous à ouvrir la porte. Luc 24, verset 28. C'est important. Dieu veut vous bénir, mais la bénédiction, elle n'est pas mécanique. Elle n'est pas automatique. La bénédiction, elle dépend de la foi. La foi, c'est cette attirance vers Dieu également, qui à un moment donné doit prendre la décision. Ils n'étaient pas obligés. Jésus ne se serait pas imposé. Luc 24, 28. Donc, Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant, « Reste avec nous car le soir approche, le jour est sur son déclin, bien sûr, et il entra. » Pourquoi faire ? Pour rester avec eux. Est-ce que vous voulez que Jésus reste avec vous ? Qu'est-ce qui se passe ? Jésus prend les choses en main, puisque malgré le fait qu'il était chez eux, c'est lui qui prend le pain, qui rend grâce, qui le rompt et qui le leur donne. Et qu'est-ce qui se passe ? Leurs yeux s'ouvrent, ils le reconnurent et il disparut de devant eux. Et je peux vous dire que leur vie a été définitivement changée, puisqu'en l'affaire de quelques secondes, ils vont prendre la résolution de quoi faire, et bien de retourner à leur place, c'est-à-dire à Jérusalem. Est-ce que vous êtes à votre place ? Est-ce que vous êtes là où Dieu veut que vous soyez ? C'est important. Être là où Dieu veut que l'on soit pour que le feu de Dieu vienne dans le cœur et se déverse sur les autres. C'est la volonté de Dieu que nos cœurs soient embrasés par sa parole. Alors cet après-midi, pour poursuivre ce que nous avons vu ce matin, je voudrais vous parler d'un homme qui s'est laissé conduire par Dieu pour que le feu de Dieu descende sur la nation. Pour cela, Dieu a d'abord dû provoquer une famine et une sécheresse de 3 ans. Est-ce que vous savez que parfois, lorsque Dieu veut envoyer certaines bénédictions, il est obligé de provoquer des situations difficiles. C'est terrible, mais c'est comme ça. Alors on va s'arrêter quelques instants, on va lire 2 ou 3 expériences que cet homme a dû accepter pour que le feu de Dieu puisse descendre sur l'autel. C'est dans Un Roi. D'abord, cet homme, on le voit sortir de nulle part. Si vous cherchez même sur les cartes d'Israël, vous allez voir, il lit le Tishbite, vous allez voir, vous allez avoir du mal à trouver. On se demande d'où il sortait. Mais enfin, c'était un des habitants de Galaad, et Dieu prononce la sécheresse. Ah, c'est des choses qu'on n'aime pas, ça. 3 ans de sécheresse dans un pays. Vous imaginez si on vous disait, voilà, jusqu'en septembre 2014, il ne pleuvra pas. Il y aurait de quoi s'inquiéter. Hein. Vous ne croyez pas, déjà quand il ne pleut pas de mois, vous avez vu comment les plantes commencent à se manifester. Hein. Imaginez-vous, pendant 3 ans qu'il ne pleut pas. Et Dieu l'a voulu. Et ils n'adoraient plus le Seigneur. Ils adoraient Baal, ils adoraient les idoles. Et le Seigneur va vouloir les ramener. Le Seigneur sait ce qu'il faut faire pour ramener le cœur des hommes à lui. Et si le monde traverse des moments difficiles, si le monde est de plus en plus dans les ténèbres, il n'y a qu'à regarder les informations une demi-heure pour que vous vous rendiez compte combien notre monde est de plus en plus enténébré. Et là, nous avons affaire à une situation qui est pareille. Un Roi, chapitre 17, regardez. Élie, le Tishbite, l'un des habitants de Galaad, dit à Akab, « L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. » Et Dieu va provoquer donc cette sécheresse pendant 3 ans. Il va vouloir les éprouver. Il va vouloir les mettre, Dieu va les mettre devant le fait accompli. C'est-à-dire qu'ils adoraient Baal, c'est le dieu de la pluie, le dieu de la fertilité. Je peux vous dire qu'ils l'ont invoqué, ça ne servait à rien. Alors qu'est-ce que Dieu va faire ? On va lire avant que le feu descende. Le Seigneur va demander 2 ou 3 choses à Élie. On va voir la première. Au verset 2, la parole fut adressée à Élie en ces mots, « Pars d'ici et dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là. » Il partit et fit selon la parole de l'Éternel, et il alla s'établir près du torrent à Kérit, qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du matin et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir. Et il buvait de l'eau du torrent. Amen. Quelle expérience. Voyez, il y a la sécheresse sur le pays, mais Dieu prend soin de son enfant. Est-ce que vous croyez que Dieu fera de même envers vous ? Que même si la misère est sur notre nation, Dieu prendra soin de vous. Je pense qu'Élie ne devait pas tellement aimer les corbeaux, parce que quand même dans le Lévitique, ils font partie des animaux impurs. Comme quoi, vous voyez, Dieu peut nous étonner, Dieu peut parfois nous interpeller, mais enfin, une chose est sûre, ce qui était important, c'est que Dieu puisse manifester sa miséricorde. Dieu, voilà, il n'y aura pas de pluie, mais moi, je vais te cacher. Tu vas aller là-bas, tu pars d'ici, tu vas là-bas, dans tel torrent, et je vais te nourrir. Bon, le premier soir, ou le premier matin, il a dit, mais je ne sais pas comment ils arrivaient, les corbeaux, hein, comment ils arrivaient, avec le pain sous le bras. Non, mais je ne sais pas, ça devait être quelque chose quand même. Oui ou non? Est-ce qu'il y avait une vingtaine de corbeaux qui arrivaient, avec chacun un petit morceau dans la bouche, dans le bec, pardon? Je ne sais pas, ce n'est pas précisé. Mais ça nous prouve une chose, c'est que dans l'année de la sécheresse, la Bible dit que celui qui se confie en Dieu, il n'a rien à craindre. C'est écrit, oui ou non? Que celui qui se confie à l'Éternel, il ne voit pas la chaleur arriver. Dans l'année de la sécheresse, il porte encore du fruit. Voilà, c'était la première étape. Il fallait qu'il accepte de se cacher auprès du torrent pendant un certain temps. Il y avait peut-être plein de choses à faire. Non, Dieu lui dit, pars d'ici et va te cacher. Là, je vais te nourrir. Combien de temps ça a duré? On ne le sait pas. Au verset 7, il est dit, au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec. Ah, je m'étais habitué, moi. Je m'étais habitué au petit déjeuner le matin. Je m'étais habitué à ces corbeaux sympas qui venaient m'apporter à boire et à manger de la viande et du pain. Vous aimeriez, vous, que le matin, les corbeaux, ils descendent sur la terrasse de votre chambre? Hop! Mais vous le croyez, ça, au fait? Mais vous croyez que Dieu peut bénir quelqu'un, même par les païens? Parce que ces animaux impurs, ces animaux qui étaient considérés impurs, représentent les païens aussi. Est-ce que Dieu pourrait bénir des chrétiens avec des païens? Est-ce que Dieu peut utiliser l'argent des pécheurs pour bénir les païens, les chrétiens? C'est écrit. Où? Ecclésiaste. Vous êtes renvoyé. 6 mois. C'est écrit, mais c'est écrit aussi dans les psaumes. Quelle grâce! Et voyez, cet homme qui était en train de voir que le pays allait être frappé, a écouté. Quand Dieu dit quelque chose, faites-le. Quels que soient les temps que nous traversons, quels que soient les temps que l'Église peut traverser, que votre famille peut traverser, si le Seigneur vous dit, sépare-toi, cache-toi, je te bénirai, écoutez-le. Il a tous les moyens pour vous bénir, le Seigneur. Vous le croyez qu'il peut pourvoir un travail? Vous êtes sans travail? Est-ce que Dieu peut vous pourvoir? Mais bien sûr. Voilà, si vous faites ce que Dieu vous demande. Voyez, pars d'ici, dirige-toi et cache-toi. Et il l'a fait. Il n'a pas dit, mais non, il y a plein de travail, il faut que j'aille parler au roi, il faut que j'aille parler à un tel. Non, il est resté caché. Au bout d'un certain temps, comme quoi Dieu, voyez, des fois, il change les choses. Là, il va dépendre de Dieu seul. C'est beau aussi quand on dépend que de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Là, auprès du torrent, quelle expérience, ça a dû quand même le bouleverser. Cela a-t-il duré 15 jours? Cela a-t-il duré 6 mois? Ça, on ne le sait pas. Au bout d'un certain temps, donc, le torrent est à sec. Vous savez, Dieu, parfois, il peut, excusez-moi l'expression, mais couper les robinets. Ah, mais pourquoi ça marchait? Ah, maintenant, Seigneur, là, ça ne marche plus. Parce que Dieu, il veut vous amener dans une autre situation. Ça aussi, il faut l'accepter. Que Dieu puisse permettre que quelque chose cesse pour nous amener plus loin. Ça peut arriver dans un domaine ou dans un autre. Moi, j'ai entendu des pasteurs qui m'ont dit « Ah, je ne comprends pas, j'étais dans telle église, ça marchait, tout marchait bien. » Et puis un jour, paf, ça s'est arrêté. Et j'ai senti qu'il me fallait aller ailleurs. C'est déjà arrivé, ça. Vous voyez? Est-ce que vous acceptez le fait que Dieu puisse couper les robinets? Mais pas pour que ce soit définitif, parce qu'il a autre chose pour vous. Acceptez-le. Quand Dieu permet que quelque chose s'arrête, c'est parce qu'il veut vous amener plus loin. Ne faites pas la tête, ne boudez pas, ne dites pas « oui, c'est pas normal, au début ça coulait à flot, maintenant ça s'est arrêté, je ne comprends pas ». Non, il fallait qu'il fasse une autre expérience. Là, il n'allait plus dépendre de Dieu, il allait dépendre d'une femme étrangère en plus. Au verset 8, la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots, « Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon. Donc, vous voyez, il était au nord d'Israël. Donc, c'était déjà, c'était plus un territoire d'Israël. Et pour certains juifs, vous savez, c'était pas facile d'aller dépendre en plus d'une femme étrangère. Je vous assure que c'était pas évident. Eh bien, il le fait. Et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. En plus, elle était pauvre. Comme quoi, vous voyez, le Seigneur, des fois, ça va changer. Des corbeaux qui arrivaient avec la viande et le pain. Là, tout d'un coup, il arrive à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, « Va me chercher de l'eau, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. » Elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, « Apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. » Elle répondit, « L'Éternel, ton Dieu, est vivant. Je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et qu'un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse deux morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. » Quelle tristesse. Vous ne trouvez pas que c'est triste? Quand il y a la sécheresse spirituelle, il y en a des choses tristes. Dans un pays, quand il n'y a plus de spiritualité, les gens ils pensent qu'à mourir. Vous avez entendu tous les suicides qu'il y a? Vous avez entendu? Vous ne trouvez pas que c'est triste? Cette femme, elle était résignée. Qu'est-ce que vous voulez? Vous vouliez qu'elle fasse d'autre. Elle est là, mais quand même, voyez, elle va quand même être visitée par le Seigneur. Parce que la visite de cet homme qui a besoin même tant d'elle est la preuve que Dieu va vers ceux qui le craignent, même dans un temps de sécheresse. Elle va faire une expérience extraordinaire. Et ce que j'aimerais vous dire cet après-midi, c'est que si nous ouvrons la porte de notre cœur à ce Seigneur Jésus qui frappe et qui vous dit, mais moi j'ai des mets à te donner, j'ai des mets succulents, j'ai des choses à te donner à boire et à manger, mais je voudrais rentrer. Vous voyez, les deux disciples, ils ont fait une expérience et quelques heures après, ils se retrouvaient à Jérusalem, à leur place. Je crois fortement qu'ils ont dû faire partie des 120 qui ont été baptisés du Saint-Esprit, parce que Dieu a su les rattraper, Dieu a su les ramener. Il s'est interposé sur le chemin et il les a ramenés à Jérusalem. Et là, voyez, cette femme, elle va faire une expérience extraordinaire, mais en vérité, c'est Dieu qui veut que Élie dépende de quelqu'un. Peut-être que Dieu va vous amener à dépendre uniquement de Dieu. Peut-être que Dieu peut vous amener aussi à dépendre de quelqu'un. Quand on a été missionnaire en Polynésie, nous avions le même salaire qu'en France. On touchait 7500 francs avant de partir, à cacher, à Groyer. Et quand on est arrivé à Tahiti, on touchait 7500 francs. Mais quand on a été à Continent, le magasin le plus proche de la maison pour acheter le lait, on a vite compris qu'il allait y avoir un problème. Le litre de lait, à l'époque, coûtait 3 francs à Leclerc en France. Et à Continent, à Tahiti, il coûtait 9 francs. Ma femme m'a dit, t'as vu? Ma femme, elle a vite compris. Elle a pris 7 ou 8 articles. Elle a vu que là-bas, ça coûtait 2 fois ou 3 fois plus cher. On a vite compris que les 7500 francs qu'ils nous donnaient, ça allait vite être un problème. Mais voyez, on a prié. Et un matin, je me rappelle, parce que quand même, quand on a 3 enfants petits, bon, vous avouerez que c'est quand même une responsabilité. Et j'ai dit, Seigneur, franchement, avec le salaire, on n'y arrivera pas. C'était pas, il n'y a pas besoin d'être un expert comptable. Je le savais. Et quand j'ai fini de terminer de prier, c'est pas, vous me connaissez, et j'ai vu, comme dans une vision, vous savez, vous connaissez la corne de l'abondance, ce grand coquillage avec des fruits qui sortent de toutes sortes d'espèces. Et quand j'ai fini de prier, vous savez, c'est un tableau, c'est un tableau qui représente l'abondance. Mais tu rêves? Puis je dis non. Et à partir du lendemain, tous les jours, je ne sais pas si mon fils en rappelle, tous les jours, jusqu'à notre dernier départ, notre dernier jour de départ, il y avait des chrétiens, tous les jours, qui amenaient, ce n'était pas des corbeaux, c'était des frères et sœurs, ils avaient des bras, des jambes, ils apportaient un carton avec de la nourriture. Tous les jours, tu t'en souviens? Tous les jours. Vous entendez? Tous les jours. Je crois que quand le Seigneur nous dit « avance, lève-toi », je crois qu'il pourvoit. Et vous n'avez pas à être résigné, vous avez à entendre une parole de Dieu, cette femme qui a dit, eh bien voilà, ben écoute, on va le faire ton gâteau, mais on le prépare et après, on va mourir. Et nous sommes dans un monde où les gens sont résignés. Mais voilà, ne soyez pas résignés, entendez la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu va dire à cette femme? Verset 13, Élie lui dit, il y a des choses qu'il faut savoir faire. Ne crains pas. Voilà. Et moi je vous le dis, ne craignez pas. Nous sommes dans des temps de sécheresse, mais si vous êtes au Seigneur, vous n'avez rien à craindre. Ne crains pas. Rentre. Rentre. Ça aussi c'est important. Jésus le dit, rentre dans ta maison. Ferme ta porte. Le bénéfice de la présence de Dieu. Entre et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Rentre, c'est ça que ça veut dire. Rentre, enferme-toi dans ta maison. Mais quand il y a une famine, ce serait l'inverse. Il faudrait courir partout pour chercher à manger. Non, rentre et fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau. Et tu me l'apporteras. Et le pasteur, il aimait les sucreries. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Vous voyez, cette femme, elle aurait pu dire, mais pour qui se prend? Ou non, c'est pas vrai? Mais pour qui se prend celui-là? Mais voyez, elle avait la crainte de Dieu. C'est pour ça que Dieu a envoyé le prophète vers cette femme. Et si vous avez la crainte de Dieu, Dieu enverra vers vous les personnes qu'il faut pour vous bénir. Prépare-moi ce gâteau. Vous savez, peut-être que Dieu est en train de vous dire ce que tout à l'heure il a été dit. Cherche d'abord le royaume de Dieu. Prépare-moi d'abord. Prépare d'abord ton cœur. Et vous avez vu la suite? Car ainsi parle l'Éternel. Cette femme qui, il y a quelques minutes avant, était résignée, qui voulait mourir. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera pas, et l'huile qui est dans ta cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Elle alla et fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Alors ce que je voulais vous dire, avant que le feu du ciel, parce que ce qui nous intéresse à nous, c'est le baptême du Saint-Esprit, c'est le feu qui descend parce qu'on ouvre la porte, que le Seigneur rentre et qu'il se passe quelque chose. Dieu a voulu une sécheresse de 3 ans et a voulu en même temps former son serviteur pour qu'il dépende de lui-même, c'est-à-dire de Dieu lui-même, après qu'il dépende d'une femme qui était là dans sa misère, une femme étrangère. Vous voyez, c'est des choses qui nous dépassent. Mais voyez, et pendant longtemps, Élie a été au bénéfice de la bénédiction qui a reposé sur cette femme. Et c'est après ces expériences que Dieu va tout à nouveau dire, maintenant la sécheresse, elle est finie. Parce que je crois qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour l'épreuve et il y a un temps pour la bénédiction. Vous le croyez? Alors, voyez, le chapitre 17 commence avec la prophétie de la sécheresse. Le chapitre 18 commence avec la prophétie de la pluie. On peut le lire, hein? Bien des jours s'écoulèrent, bien sûr, 3 ans. Et la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Élie dans la 3e année. Va, présente-toi devant Akab. Ils n'étaient pas copains, je vous le dis. Et je ferai tomber de la pluie sur la face du sol. Amen. Alléluia. Vous savez, il y a un temps où Dieu dit stop. Il y a un temps où l'épreuve est là. Elle doit durer le temps. Dieu avait dit 3 ans. Ce n'était pas la peine de dire Seigneur, 2 ans et demi. Quand Dieu a déterminé un temps, ça dure le temps qu'il a déterminé. Vous ne croyez pas que Dieu déjà aurait pu enchaîner Satan? Dites-moi, est-ce que Dieu a le pouvoir d'enchaîner Satan et de le mettre dans les tourments éternels? Est-ce que Dieu pourrait le faire? Est-ce qu'il pourrait le faire là dans les minutes qui suivent? Ben oui, mais il y a un temps. Il le fera au temps marqué. En attendant, Dieu sait très bien ce qu'il fait. À nous de lui faire confiance, à nous de dépendre de Dieu, à nous d'accepter que parfois nous devions aussi dépendre des autres. C'est humiliant de dépendre des autres parfois, oui ou non? Hein, il y a des situations, dépendre de Dieu, bon c'est bien, tu sais, vous savez, moi les corbeaux me nourrissaient là, pendant 3 ans. Mais quand on est obligé de dire, ben ouais, pour survivre, je dépendais d'une femme qui me donnait à manger tous les jours, il l'acceptait. Vous voyez, lui aussi, il était à l'école. Dans ces temps de sécheresse, il était à l'école. Mais quand le moment de la pluie est venu, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Il avait accepté les tests. Dieu nous fait passer par des tests. Dieu nous fait passer par des chemins. Dieu nous fait passer par telle et telle école où on dépendra des gens, telle ou telle école où on dépendra de Dieu, ce qui sera bien sûr l'idéal. Mais Dieu va nous peut-être nous rappeler une prophétie que le temps de la pluie est arrivé. Et là, bien sûr, je ne veux pas être long, mais vous savez, cette histoire extraordinaire, qu'est-ce que Élie a dû faire pour que le feu de Dieu tombe sur l'autel? Alors c'est au chapitre 18, bien sûr. Il va y avoir un défi qui va être lancé aux prêtres de Baal, aux Astartés. Ils vont se démener pendant toute la journée pour essayer de faire tomber le feu du ciel. Bien sûr, ça ne servira à rien puisqu'ils s'adressaient à des idoles. Mais on va lire ce qui nous intéresse. 1 Roi 18, verset 29. Parce que si nous voulons voir le feu du ciel descendre, il faut accepter toutes les étapes par lesquelles le Seigneur va nous faire passer. Et là, on est à l'apothéose de la bénédiction. 1 Roi 18, verset 29, « Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande, mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Élie dit alors à tout le peuple, « Approchez-vous de moi. » Et tout le peuple s'approcha de lui. Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit 12 pierres d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, auquel l'Éternel avait dit, « Israël sera ton nom. » Il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semence. Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois. Puis il dit, « Remplissez d'eau 4 cruches et versez-le sur l'holocauste et sur le bois. » Il dit, « Faites-le une deuxième fois. » Et ils le firent une deuxième fois. Il dit, « Faites-le une troisième fois. » Et ils le firent une troisième fois. L'eau coula autour de l'autel et l'on remplit d'eau aussi le fossé. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie, le prophète, s'avança et dit, « Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu et que c'est toi qui ramènes leur cœur. » Et le feu de l'Éternel tomba, il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, « C'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Amen. » Est-ce que vous aimeriez que tous les Toulousains disent, « C'est le Seigneur Jésus qui est Dieu. C'est le Seigneur Jésus qui est le Sauveur du monde, qui est mon Sauveur. » Est-ce que vous aimeriez que les gens de votre famille, vos amis, vos enfants, vos petits-enfants, vos neveux et nièces, dire, « Oui, je le sais maintenant, c'est le Seigneur Jésus qui est le Seigneur du ciel et de la terre. » Vous aimerez? Pour cela, il y a une chose, c'est qu'il faut que les choses se passent chronologiquement. Oui, nous sommes dans un temps de sécheresse, mais nous sommes dans un temps aussi où le Seigneur a dit qu'il enverrait la pluie à l'arrière-saison. Avant la moisson, Dieu va envoyer la pluie. Vous avez vu comment ça se passe normalement. Avant que l'on moissonne un champ, au mois d'avril, au mois de mai, il y a ces fameuses pluies qui viennent donner un coup de fouet aux semences et qui font qu'elles se développent et qu'elles se forment davantage. Et Dieu a dit, j'enverrai la pluie de l'arrière-saison. Est-ce que vous croyez en la pluie? Dieu veut répandre de son esprit, la pluie spirituelle bien sûr, cette pluie. Mais voyez, il y a toute une direction, il y a tout un cheminement, il y a une préparation. Oui, le Seigneur y frappe. Est-ce que vous permettez à Jésus d'entrer dans votre cœur? Est-ce que vous permettez à Jésus de vous parler, de vous nourrir, de vous conduire dans tel endroit, de vous conduire dans un autre endroit et de permettre surtout, voyez, il a rétabli l'autel. Le feu de Dieu n'est jamais tombé au hasard. Chaque fois que vous lisez la Bible, le feu de Dieu est toujours tombé quand ils ont fait les choses d'après le modèle. Vous l'avez lu la Bible? Vous l'avez lu? Vous avez lu l'Ancien Testament? Chaque fois que Dieu a envoyé la nuée, sa gloire ou le feu dans son approbation, chaque fois, on avait fait les choses en conformité avec sa parole. Et si une église dit « mais c'est vrai, tu frappes à la porte dont tu ne nous as pas rejetés, Parce que dans l'église de Laodicée, ça partait mal. Ça partait très très mal. Et le Seigneur va leur dire, mais si tu es tiède, je vais te vomir de ma bouche. Donc je vais te rejeter. Mais voilà, il y a des gens au milieu de vous qui vont réagir. D'ailleurs, il dit, à celui qui vaincra, c'est-à-dire à celui qui va ouvrir la porte, à celui qui va faire comme les deux disciples, mais reste avec moi, ça ne me suffit pas. Qu'un petit peu de chaleur, que tu me réchauffes un petit peu le cœur, ça ne suffit pas. Il faut qu'il y ait cette communion, il faut qu'il y ait ce rassasiement, cette véritable bénédiction. Alors qu'est-ce qu'il faut rétablir? Eh bien, Dieu va peut-être vous le montrer. Peut-être que l'autel de votre vie est tout démoli. Combien de gens m'ont dit, ah moi, il faut que je reconstruise tout. Ma vie, elle est démolie. Il faut que je recommence à zéro. Voilà, la fidélité, la pierre de la fidélité. Est-ce que c'est important d'être fidèle? Ben oui. Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme pierre? Bon, là, ça représentait les 12 tribus d'Israël, mais on pourrait en trouver comme pierre. De nom aux pierres. Qu'est-ce que vous donneriez, vous, comme pierre, comme nom? Il n'y a pas de nom que vous pourriez donner? Hein? La prière. Est-ce que c'est important de prier? Quand est-ce que le feu de Dieu est tombé sur le temple de Salomon? Ben, quand Salomon a fini de prier. Quand il a fini de prier, le feu de Dieu est tombé et a mené la bénédiction sur tout Israël. À cause d'un homme qui s'est humilié, qui a prié, qui a fait les choses comme son père l'avait dit, comme David, mais en vérité c'était Dieu qui lui avait demandé. Et le feu de Dieu est tombé. Il rétablit l'autel. Est-ce que d'après vous, si Élie n'avait pas rétabli l'autel, le feu serait tombé? Non. Et l'Holocauste, il a mis l'Holocauste en entier, tout le taureau. Il n'a pas laissé la tête sur le côté, il a tout mis. Au fait, si nous voulons que le feu descende sur Toulouse, le feu spirituel, la bénédiction spirituelle, je crois qu'il faut que tous les croyants se mettent sur l'autel. Est-ce que vous êtes d'accord? Jésus n'a-t-il pas dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. Qu'il se charge chaque jour de la croix et qu'il me suive. Est-ce que nous voulons rétablir l'autel? Est-ce que nous voulons dire, oh oui, j'aimerais que le feu descende dans nos réunions? Est-ce que vous aimeriez qu'il y ait le feu dans les réunions? Hein? Pas le feu, qu'on n'ait pas besoin des pompiers, mais le feu de Dieu, le feu spirituel. Est-ce que vous aimeriez que dans les réunions, les gens soient convaincus de péché? Vous avez entendu ces témoignages de gens qui, pendant les réunions, tombaient à genoux et demandaient pardon. Vous avez entendu ce genre de témoignages? Est-ce que c'est possible? Eh bien, rétablissons l'autel. Mettons le sacrifice en entier. L'apôtre Paul, il dit, je vous exhorte par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, ce qui sera un culte raisonnable. Et j'ai vu dans une version un culte acceptable. Vous savez, il y a des choses que Dieu accepte. Il y a des choses que Dieu n'accepte pas. Et pour que l'offrande soit bénie, il faut qu'elle soit complète. Il n'a pas dit, bon, ben, je vais mettre une partie du taureau, le reste, il ne va pas, bon, allez, on verra après. Non, il a rebâti l'autel. Je ne sais pas le temps que ça a pris. Est-ce qu'il l'a fait tout seul? Est-ce que ça a pris une heure? Je ne sais rien. L'ont-ils regardé? Mais qu'est-ce qu'il fabrique? Il l'a fait, il le savait. Il avait vérifié la bénédiction de Dieu auprès du torrent. Il avait vérifié la fidélité de Dieu chez la veuve de Sarepta. On n'a pas lu un épisode, mais quand le fils de la veuve de Sarepta est tombé malade, Dieu, il l'a ressuscité. C'est pas merveilleux? Il n'y avait jamais eu de résurrection. Je crois que c'est la première. Je ne veux pas me tromper. Je crois que c'est la première résurrection dans la Bible. Il fallait quand même, bon, c'est la première fois quand même. C'est pas vrai? Et voyez, il avait vérifié la fidélité de Dieu. Avez-vous vérifié la fidélité de Dieu? Tiens donc. L'avez-vous vérifié? Voulez-vous la vérifier? Eh bien, soyez fidèles dans les petites choses. Voyez, voilà, va là-bas. Voilà, enferme-toi. Mets-toi auprès du torrent. Voilà, tu vas dépendre des frères et des sœurs. Tu es malade, tu as besoin que des frères te soutiennent dans la prière. Demande-leur de prier pour toi. Dépendre des autres, non, jamais. Eh bien, moi, je vais vous dire, Dieu vous fera passer par certaines expériences. N'ayez jamais honte de dire à quelqu'un, prie pour moi, je suis fatigué. N'ayez pas honte de dépendre des autres. La Bible nous montre que ce n'est jamais du chacun pour soi, c'est toujours les uns les autres. Et si nous acceptons d'être fidèles dans les petites choses, Dieu nous en confiera de plus grandes. Dieu a dû trouver cet Élie, là, je ne sais pas d'où il sortait en plus, mais il l'a trouvé. Parce que quand même, il fallait être d'attaque, croyez-moi, pour s'opposer à Achab et à Jézabel. Mais il a été fidèle, il a écouté, il a rétabli l'autel, il a mis le taureau dessus, et au moment de la présentation de l'offrande, lorsqu'il a prié, le feu de Dieu est descendu. Voilà, je vous interpelle, voilà, oui, je suis venu jeter un feu sur la terre, dit Jésus. Et qu'ai-je à désirer s'il est déjà allumé? Alors on pourrait prendre tous les textes, c'est une expérience à faire, tous les textes sur le feu dans la Bible. Alors il y a le feu qui nous parle de tourments éternels, des peines éternelles, de la géhenne, de l'enfer. Il y a des textes qui, par rapport au feu, c'est pas facile. Mais il y a des textes sur le feu qui nous montrent que dès qu'il y a le feu, il y a l'approbation de Dieu. Par exemple, quand Moïse, qui depuis 40 ans gardait les troupeaux de son beau-père fidèlement, 40 ans, est-ce que vous vous rendez compte? Lui qui voulait délivrer ses frères de la servitude, il a dû fuir en Égypte. Pendant 40 ans, il a gardé un troupeau qui ne lui appartenait même pas. Est-ce que vous vous rendez compte? Pendant 40 ans. Et à un moment donné, alors qu'il gardait ses moutons, il y a un buisson qui a pris feu. Ce qui arrive dans le désert, mais normalement, quand un buisson prend feu, il se consume, et deux minutes après, il y a un peu de fumée, et c'est tout. Mais là, ce qui s'est passé, c'est que le buisson a pris feu et qu'il continuait à brûler. Et c'était la présence de Dieu qui venait commencer à mettre le feu dans sa vie. Est-ce que ça valait la peine? Voulons-nous le feu de Dieu? Voulons-nous vraiment voir la gloire de Dieu? Est-ce que vraiment vous voulez voir la gloire de Dieu? Eh bien, il y a un prix à payer. Seigneur, je veux me consacrer. Il y a des choses dans ma vie, révèle-les-moi, montre-moi-les. Il va falloir rétablir. Ça, dans ma vie, ça ne va pas. Le culte personnel, c'est deux ou trois pierres sur l'autel qui sont en vadrouille. Il faut que je les remette sur place. Faites-vous votre culte personnel? Si vous ne faites pas votre culte personnel, vous ne pouvez pas dire que l'autel que Dieu veut que vous ayez soit rétabli. Oui, la pierre de la fidélité, la pierre peut-être de l'amour. Est-ce que c'est important d'aimer? Est-ce que c'est important d'aimer l'Église, d'aimer le peuple de Dieu, d'aimer le Seigneur? Oui, Seigneur, je veux rétablir l'autel. Tu me montres certaines choses, je vais les faire. Et le feu de Dieu viendra. Oui, je me tiens à la porte et je frappe. Les deux disciples ont été touchés par ce feu et ils sont retournés à Jérusalem et ils ont pu se retrouver au centre de la volonté du Seigneur. Fermons les yeux quelques instants. Combien je voudrais que nous réfléchissions à la fidélité dans les petites choses. Mon frère, ma sœur, veux-tu voir la puissance du Saint-Esprit se manifester dans ta vie? Veux-tu voir la puissance du Saint-Esprit se manifester dans cette église, dans la ville de Toulouse? Eh bien, soyons à l'écoute. Oui, si quelqu'un entend ma voix, si quelqu'un entend, s'il ouvre la porte, eh bien j'entrerai. Je souperai avec lui et lui avec moi. Et le Seigneur ajoute à celui qui vaincra. Élie a été un vainqueur. Dieu l'a conduit de façon difficile, périlleuse, mais il a obéi. Et dans le désert, dans la sécheresse, il n'a jamais manqué de rien. Et quand le moment de la pluie est arrivé, le feu de Dieu est descendu au travers de sa vie. Il y a peut-être quelqu'un qui dit, oh Jésus, j'aimerais qu'au travers de ma vie, ton feu puisse brûler dans le cœur des autres. Y a-t-il quelqu'un qui soupire après cela? Y a-t-il quelqu'un qui voudrait être baptisé du Saint-Esprit? Jean-Baptiste l'a dit, lui, il vous baptisera d'Esprit Saint et de feu. Y a-t-il quelqu'un cet après-midi qui dit, oh oui, mon autel, il est tout dérangé, toutes les pierres sont dispersées. Et moi qui suis le sacrifice, j'ai peur de m'offrir entièrement. Il y a une partie de ma vie qui n'appartient pas à Dieu. Il y a 20% de mon temps qui appartient au monde. Et bien, il faut tout mettre sur l'autel. Votre vie appartient-elle à Dieu à 100%, à 80%, à 10%? Je vous dis, mes frères, que si nous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur.
si le Seigneur te parle cet après-midi, pour que votre vie soit sur l'autel. Profitez de ce moment pour dire, Seigneur, il faut que je réapprenne à me laisser conduire, diriger. Oui, ce sont des temps de sécheresse, mais il y a la pluie de l'arrière-saison. Elle va venir, cette pluie. Elle va venir. Est-ce que c'est moi l'instrument que tu veux que je sois, Seigneur, pour que cette pluie descende dans l'église? Est-ce que dans ma famille, c'est moi qui dois être cet instrument de bénédiction? Lorsque Dieu a appelé Élie, on ne connaît rien de l'appel d'Élie, mais il a dû peut-être lutter. Quand Dieu lui a dit, mais c'est toi Élie, qui va amener la bénédiction sur Israël. Mais comment moi, je suis un étranger, je n'y connais rien. Oui, il a obéi. Entendez-vous la voix du Seigneur? Ferez-vous comme les deux disciples? Reste avec moi, reste avec nous. On a besoin de partager quelque chose avec toi, Seigneur. Peut-être ce soir, dans ma chambre, en lisant la Bible, tu vas me montrer quelles sont les pierres qui ont besoin d'être mises sur l'autel. Tu vas me montrer les 5, 10, 15, 20% de ma vie qui encore ne t'appartiennent pas, qui font que tu ne peux pas envoyer ce feu, et le Seigneur le fera. Notre Père, notre Dieu, pendant ce moment où nous sommes sous ton regard, te prions de nous parler, te prions de nous renouveler, de nous rafraîchir. Que ce moment de Sainte Cène soit un moment de victoire. Tu l'as dit, prenez et mangez, prenez et buvez, et au-delà de ce morceau de pain et au-delà du vin, nous savons qu'il y a derrière toute la victoire du calvaire, toute la victoire du Golgotha. Seigneur, s'il te plaît, que tous ceux qui ont été amenés à la foi, tous ceux qui t'ont accepté comme sauveur et comme Seigneur, puissent ressortir bouillants de ce lieu de culte, avec cette détermination, oui, d'obéir dans les petites choses, pour que de grandes choses puissent se manifester selon ta volonté. Que ton nom soit béni, Seigneur Jésus.